Nous allons accueillir Flo, une grande voix de la radio libertaire spécialisée en littérature jeunesse.
Alors là, je vais vous lire un si bel espoir, enfin, des passages. Pour vous remettre dans le contexte, c'était sous Napoléon III. Quelques personnages. Morny, le duc de Morny, était aussi séduisant que son demi-frère, l'empereur, était terne. Offenbach, avec son crâne chauve, ses besicles, ses longues jambes qui lui donnaient une allure de sauterelle, étalait une laideur rare. La protection que Morny accordait à Offenbach, allant jusqu'à accepter d'être le parrain de son fils, n'était pas innocente. En favorisant l'opéra bouffe, Morny favorisait le régime. Par sa satire aimable de la société, Offenbach contribuait au bon moral de l'Empire. Avec Offenbach, tout le monde rigolait de la pourriture d'un monde qui ne se savait pas si malade. On s'amusait sur l'Olympe comme à la cour de l'empereur. On se tapait sur les cuisses en se moquant des pauvres. Je saute des passages. Je suis gay, G-A-I-E. Soyez gay, G-A-I-S, chantait la belle Hélène. C'était le mot d'ordre que Morny entendait diffuser. Soyez gay, cette parodie burlesque, cette bouffonnerie, permettait de ne pas discerner la pitrerie de ce régime qui, après s'être proclamé pacifiste, s'était lancé dans l'insensée guerre de Crimée, puis avait envahi le nord de l'Italie en se glorifiant des victoires de Solferino et de Magenta. Offenbach entretenait une insouciance qui permettait au Second Empire de se maintenir et de ne pas réfléchir sur cette course vers un soi-disant progrès, porteur dans ses excès des stigmates de la mort. Voilà, c'était la réponse d'Offenbach à quoi sert l'art. La musique, ça peut servir à ça aussi. Ensuite, un autre passage. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est fils d'ouvrier devenu architecte et qui s'appelle Hector. Ton ami Proudhon croit que c'est lui l'ennemi de l'Empire, des riches, des puissants, le défenseur des pauvres, et il doit nous mépriser à cause de nos dentelles. S'il savait combien ceux que nous fréquentons de si près, ceux que la tiédeur de l'oreiller des armes, s'en fichent de Proudhon et de son socialisme. Ils sont si sûrs d'eux, de leurs magots, de leurs polices, de leurs soldats. Ils ont si bien tout verrouillé, tout mis au pas, sauf nous. Ils ne se méfient pas. Nous connaissons Vénal. Ils croient nous avoir acheté. EES, hein, sont les filles qui parlent. Justement, il n'y a que nous qui ne sommes pas achetables parce que on nous a toutes ramassées dans le ruisseau. Comme disait plaisamment Courbet à mon propos, il nous est resté un peu de cette boue collée au corps et ceux qui s'y frottent en portent de cette boue. Ils sont marqués, ils ont la lèpre. Oui, j'ai oublié de vous dire, là, c'est les courtisanes qui parlent. Un petit passage, enfin, oui, il va y avoir là, je vais vous parler de Varlin et je vais vous parler des enfants. J'ai trouvé des passages où il parle des enfants. À l'approche des élections législatives de 1869, l'agitation gagna la province. Dans le bassin de la Loire et dans l'Aveyron, les mineurs s'affrontèrent à l'armée. Près de Saint-Étienne à la Ricamarie, la troupe tira et tua 13 houilleurs. Près de Villefranche de Rouergue, 14 sidérurgistes tombèrent sous les balles des soldats et on releva 20 blessés. Le peuple, parti négligeable pendant tout l'Empire, bougeait, grondait, s'organisait. Les grèves spontanées suscitaient la création de chambres syndicales, désormais tolérées, et de sociétés ouvrières de secours mutuels. Non loin de la rue du Sentier, au 6 de la rue de la Corderie, un cercle d'études sociales tenait ses réunions. Hector, convié à l'une d'elles, y fut reçu avec une grande chaleur par les militants ouvriers qui reconnaissaient en lui le précurseur de l'habitat populaire et le théoricien de l'Athénée industriel. Un relieur, Eugène Varlin, étonna Hector par son autorité et sa culture d'autodidacte. Deux mécaniciens, quatre travailleurs du bâtiment, commentèrent intelligemment ses projets en critiquant certains, comme la couverture des grands boulevards qu'ils jugeaient inutiles, puisque seulement conçus pour l'agrément des oisifs. Par contre, les deux mécaniciens approuvaient tous ces édifices aux structures métalliques dont ils connaissaient parfaitement les projets, y ajoutant des remarques pertinentes. Varlin demanda à Hector s'il consentirait à prononcer dans leur cercle une conférence sur l'architecture de l'avenir. Il préviendrait les autres sociétés amies et le public serait certainement au rendez-vous. Varlin réunit 200 personnes. Jamais Hector n'avait parlé devant un tel auditoire. Jamais non plus il n'avait vu assemblée en un même lieu depuis juin 48 autant d'ouvriers. Il improvisa pendant 2 heures sans s'arrêter, écouté par une assistance silencieuse et attentive à toutes ses démonstrations. Entraîné par son auditoire, qui pourtant ne l'interrompait pas et ne lui posait aucune question, son discours fut plus politique que technique. Toutes ses rancœurs, tous ses échecs affluaient. Ces hommes, éliminés comme lui de la gestion des entreprises, comprenaient ses motivations et ce que l'on appelait avec décision son utopie. Eux aussi, ils l'avaient pressenti dès leur première rencontre, étaient des utopistes, rêvant d'égalité entre les hommes, de liberté totale, de travail utile, de concorde entre les peuples débarrassés de leurs gouvernants, de leurs armées et de leurs églises. L'architecture, la ville qu'ils décrivaient, joignait toujours l'utile à l'agréable. Il demandait que l'on supprime les fortifications qui ne sont qu'un reste de barbarie, en consacrant les espaces dégagés au jardinage et en réemployant les pierres des murs pour construire des écoles, des gymnases, des bassins de natation, des asiles de secours pour les travailleurs, des théâtres d'hiver et d'été qui, disait-il, moralisait d'une manière attrayante, instruisant le peuple en le divertissant. Que l'on démolisse les octrois, que l'on édifie des abattoirs et des suifferies où sont installés les bestiaux près des lignes de chemin de fer, afin que les viandes abattues demeurent fraîches au moment de la vente. Et que l'on interdise tout tapage, toute musique discordante, et en premier lieu, précisait-il, les clairons et les tambours qui assourdissent et paralysent les travailleurs de la pensée. Que l'on utilise le palais de l'Élysée comme bibliothèque publique, avec des salles de conférences, des cours théoriques et pratiques, des expositions constantes et internationales de production artistique. Qu'au lieu d'un champ de course hippique entre la Seine et le bois de Boulogne, on établisse une colonie agricole, une ferme modèle, avec démonstration permanente de machines agricoles, de méthodes et d'expériences tendant à améliorer l'industrie alimentaire. Il rappela ses projets, la manière dont ils avaient été plagiés, comment on les lui avait volés, comment on se moqua de ses théories. Il parla de Proudhon, de Courbet, il parla de l'Égypte et des Fellars. Ne dit rien des Almées, il évoqua Ambroise, dont il avait appris la ruine et la mort tragique, sans citer son nom, mais comme un exemple des erreurs de la politique de l'Empire et de la preuve de son agonie. Il aurait pu parler pendant 3 heures, 4 heures, pendant toute la nuit, devant ces hommes si attentifs. Il avait enfin trouvé son public. Il avait trouvé ceux pour lesquels il concevait ses projets. Et avec eux, il en avait la certitude. Ses projets ne resteraient pas vains. Lorsqu'il acheva son discours, il y eut un long silence. Puis, d'un seul élan, ces hommes muets, assis sur des bancs de bois et des tabourets, se relevèrent et crièrent d'une voix gutturale, d'une voix d'orage, quelque chose qu'Hector ne comprit pas. Varlin s'avança et lui serra frénétiquement la main.
Merci, Florent.